Bonjour les enfants, petits et grands. Je vais vous raconter une histoire.
Une histoire.
Il était une fois, dans un pays pas si lointain, une espèce de lutin coquin, désormais en voie de disparition.
Oh non !
Décidé à ne pas tomber dans l'oubli, ils souhaitent aujourd'hui se faire entendre. Ils ne vont certes pas à l'école, mais ils ont des choses à dire et des envies, des passions à partager. Ces jeunes individus curieux, dotés d'un pouvoir envié, évoluent bien souvent en milieu naturel. Ils se nourrissent d'insouciance, de confiance et même d'expérience. Malheureusement, le respect de leurs besoins et de leur rythme n'est pas au goût de tout le monde. Le danger guette. Cette liberté est menacée. Cependant, rien n'est perdu. Ces lutins coquins sont aussi malins et unis.
Mais pas peur, nananananère. Mais pas peur, nananananère.
Mais pas peur, nananananère.
Ils sont courageux et déterminés et resteront solidaires malgré les embûches.
Et du coup, elle finit comment l'histoire ?
Elle n'est pas terminée. C'est à nous d'écrire la fin.
Ils sont trop forts, ces lutins.
Moi, j'aime les histoires qui finissent bien.
Aujourd'hui, notre liberté d'instruire en famille est menacée. L'IEF est un droit et doit le rester.
Bonjour, je m'appelle Marcus. J'ai 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Et je voulais vous présenter ma chanson préférée. Bamba li bamba, bamba li bamba, soye bali bamba, bamba li bamba, yeah.
Bamba li bamba, soye bali bamba, bamba li bamba, yeah. Yeah, wana toli ba, yeah. Yeah, wana toli ba, yeah. Wana toli ba, yeah. Wana toli ba, yeah. Bamba li bamba, soye bali bamba, bamba li bamba, e.
Bamba li bamba li, bamba li bamba li,
bamba li bamba, soye bali bamba, bamba li bamba, e.
Bamba li
bamba.
Bamba li bamba, soye bali bamba, bamba li bamba, ye. Bamba li bamba, 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 bamba li bamba.
Bonjour à tous, moi c'est Ambroise. Aujourd'hui, cette émission sera sur le thème de la forêt. En se baladant en Creuse, on ne peut que voir toutes ces forêts abattues sur des hectares. C'est horrible. Moi, je n'aime pas ça du tout. Ça nous a questionnés. Alors, on a décidé d'aller rencontrer des gens qui essaient de protéger nos forêts.
Avec les noisettes en salopette, on a fait une balade en forêt pour écouter tous les oiseaux. On a fait cette promenade avec la LPO, la Ligue des protections des oiseaux.
On en a profité pour leur poser des questions.
C'est parti.
Cui-cui.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Gilles Chesterman, moi je suis animateur du groupe Creuse de la LPO Limousin.
Quelles sont les espèces menacées ?
Alors les espèces menacées, malheureusement, il y en a beaucoup. Soit les espèces qui sont beaucoup chassées, comme la tourterelle des bois, hein, qui est en voie de raréfaction, et aussi malheureusement tous les insectivores. Hein, tous les insectivores, genre les hirondelles, tous ces petits migrateurs-là.
Comment les protéger ?
Alors comment les protéger ? Malheureusement, au niveau individuel, c'est pas facile. Comme les hirondelles, il faut laisser les portes de grange un peu ouvertes, pour qu'elles aient un accès dans les granges, parce que les hirondelles rustiques nichent à l'intérieur.
Okay.
Hein, les hirondelles de fenêtre, faut laisser les nids. D'ailleurs, c'est interdit de les détruire, mais il faut laisser bâtir le nid, éventuellement mettre une planchette en dessous si on ne veut pas que ça salisse. Hein. Et puis après, au niveau général, il faut laisser des haies. Et il faut laisser des insectes, et parce que les plus gros facteurs de raréfaction des espèces, hein, c'est la perte de milieu et les pesticides qui tuent la nourriture, en fait, où il n'y a plus d'insectes.
Okay.
C'est surtout les insectivores.
D'accord.
Et nous, et nos amis et nos parents, qu'est-ce qu'on peut faire ?
À titre individuel, c'est dans les jardins ou ceux qui ont des grands jardins, c'est de laisser un petit peu de broussailles. Malheureusement, des fois, les gens trouvent que ce n'est pas esthétique. Mais il faut en laisser un petit peu. Il faut laisser un peu de nature dans les jardins. C'est-à-dire que les grandes pelouses tondues, ça ne sert à rien. C'est un désert vert, mais un désert. Des haies, par contre, si on met des haies, il faut des haies avec des espèces locales un peu diversifiées. Éviter la haie de thuya et la haie de laurier cerise, c'est une catastrophe. Et puis, il faut pas mettre de produits chimiques sur son terrain, évidemment. Hein, faire en bio au maximum. Laisser des petits tas de branches, essayer de diversifier un peu son milieu. On peut nourrir l'hiver aussi, les oiseaux, ça les aide bien. Ça seulement nourrir à partir du mois de novembre, décembre maintenant, quand il fait vraiment froid, et arrêter surtout début mars.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Voilà
merci
ce
beaucoup.
Qu'on peut faire.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On vous propose maintenant un petit jeu.
On vous propose d'écouter des chants d'oiseaux. Et vous allez devoir reconnaître à qui ils appartiennent.
C'est parti ! C'est parti !
C'est Kiki ! Pas besoin de maracas pour le soukas.
Avez-vous reconnu la corneille ?
Les tourneaux.
C'était la fauvette à tête noire.
Vous l'avez ? Moi je l'ai, c'est le jet.
Est-ce que vous avez reconnu le chant des rondelles?
C'était la huppe. Oup, oup, oup. Oup, oup, oup.
Vous avez reconnu le chant de la maison jetée de bleu. Avez-vous reconnu le chant du piquet-pêche? Avez-vous reconnu le pivert? C'était le chant d'appui. C'était mon ami le Pouillot Véloce. C'était le chant du rouge-gorge. Ce n'était pas le petit chaperon rose, mais le rose-queue.
Vous avez bien sûr reconnu le chant de la citelle torche-pot.
Ce petit jeu vous a plu ? On reste dans le thème avec l'oiseau et l'enfant, Kids United.
Comme un enfant aux yeux de lumière, qui... qui voit passer au loin les oiseaux.
Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau.
Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent.
Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc.
Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant
C'est Jean-Jacques, le Crevaire.
Moi, c'est Pascaline, Luron le Crevaire.
Et donc, on s'occupe d'une association forestière qui est une ASLGF, ça veut dire Association Syndicale Libre de Gestion Forestière. C'est un statut particulier qui dépend du code forestier, qui regroupe des propriétaires. Et le nom de cette ASLGF, c'est Forêt Vivante, au pluriel, du Sud-Est creusois. Et donc, on regroupe des propriétaires qui, de forêt, qui souhaitent s'occuper de leur forêt ensemble et de façon raisonnée, c'est-à-dire en évitant les coupes rases, en évitant la monoculture, tout en essayant de concilier la production de bois de qualité, c'est-à-dire on privilégie quand on produit du bois, bon, il y a, bien sûr il y a un petit peu de bois de chauffage, mais on essaye surtout d'arriver à produire du bois d'œuvre, parce qu'on a besoin de, bois, et de concilier ça avec le fait de préserver les forêts dans toutes leurs fonctions. C'est-à-dire que les forêts, elles servent à produire du bois, mais elles servent aussi à se promener, elles servent à ramasser des champignons, elles servent à capter du carbone, ça on en parle beaucoup actuellement, elles servent aussi à sécuriser et améliorer notre ressource en eau. Voilà toutes des problématiques qui sont très importantes aujourd'hui. Je pense que c'est notre meilleur rempart contre le changement climatique dans nos régions. Du moins, les forêts, plus ou moins naturelles, elles ne sont pas complètement naturelles parce que l'homme intervient dedans, mais disons des forêts, et les forêts remplissent ce rôle. Les plantations, beaucoup moins. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on essaye de maintenir, de préserver, de développer. C'est, on regroupe les propriétaires, mais on essaye aussi de le faire savoir. Je veux dire, très modestement, on essaye de montrer que c'est possible, qu'on s'en sort, voilà, qu'on arrive à faire ça sans se ruiner.
Et si même, du coup on est propriétaire d'une parcelle de forêt et qu'on veut la protéger, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Ah ben, y a plein de choses à faire. La première chose, bah, céder aux sirènes qui pourraient faire croire qu'on peut gagner beaucoup d'argent rapidement. Ça, c'est pas compatible avec la forêt. La forêt, c'est sur le long temps. Un arbre, si on veut le laisser vivre un peu sa vie, c'est une bonne centaine d'années. Donc si on coupe un arbre à 30 ou 40 ans, quelle que soit son essence, hein, sauf peut-être les noisetiers, et encore, on abat un adolescent. Donc voilà, si on prend la comparaison avec les êtres humains, quand on nous dit que la forêt creusoise est dépérissante, non, les plantations souffrent beaucoup. La forêt, quand elle est diversifiée en essence, quand elle est diversifiée en âge, elle résiste plutôt bien. Tous les gens qui viennent en Creuse, même les années de sécheresse, l'an dernier par exemple, ils nous le disaient, c'est incroyable, ici c'est encore vert. Et ça, c'est parce que c'est diversifié, parce qu'il y a des arbres de différentes essences, de différents âges, de différentes hauteurs, qu'on essaye de protéger ça, parce que c'est notre environnement, parce que c'est ça qui, je pense, va nous permettre de bien vivre ici, de continuer à bien vivre ici.
Et la sylviculture à couvert continue, c'est le mode de gestion que l'on promeut dans notre association, qui permet de garder un certain équilibre entre une production raisonnée de bois et une préservation de l'écosystème forestier.
Okay. Sur la durée.
Sur la durée. Et au sein de l'association aussi, on a des activités où on se rencontre entre tous les adhérents, 3 ou 4 fois par an, pour aller visiter les parcelles. Et en faisant ça, au fil du temps, on apprend beaucoup des uns et des autres.
Merci.
Comment avez-vous eu l'idée de créer cette association ?
Alors, au début, c'est que nous, on était justement... On n'aimait pas du tout ce qu'on vient de voir, la coupe rase, là, et on voyait qu'il y en avait de plus en plus. Et on se disait vraiment, ça nous semblait vraiment pas bien. Et on ne savait pas trop, on avait cette forêt là, et on se disait, ben, nous déjà on va rien y faire, on va le laisser comme ça, donc les chevreuils seront tranquilles, les chouettes, les oiseaux, tout le monde sera peinard dans notre bout de forêt. Et puis, il se trouve que sur la commune où on est, ici, à Saint-Georges-Nigremont, il y a des forêts qui ont été, qui sont des forêts anciennes. Alors, forêt ancienne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des vieux arbres. Ça veut dire que depuis 150 ans, c'est resté de la forêt. Ça a pu être coupé, mais c'est toujours resté de la forêt. Ça n'a jamais été défriché, ça n'a jamais été une terre agricole ou habitée depuis 150 ans. Donc il y a un sol très particulier. Pour savoir ça, ils ont regardé sur les cadastres napoléoniens, qui était l'époque où il y avait le moins de forêts en France. Et ils ont regardé avec l'État maintenant, en se disant, s'il y avait de la forêt à l'époque et s'il y en a encore maintenant, il y a de fortes chances que ça soit resté en forêt pendant tout ce temps. Et donc, à partir de là, ils sont venus voir sur ces endroits s'ils trouvaient la preuve que c'était bien une forêt ancienne, avec, parce qu'il y a une faune particulière, une flore particulière. Donc, c'était bien le cas. Et du coup, ils ont fait des réunions pour inciter les propriétaires qui sont sur ce secteur à ne pas faire n'importe quoi dans les forêts. Et là, on s'est retrouvés avec quelques personnes qui étaient sur la même idée que nous. Il y avait aussi dans les organisateurs, il y avait le PNR et il y avait le CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière, qui s'occupe de la forêt privée en France. Et eux, l'objectif du CRPF, c'était justement d'inciter les propriétaires à faire une association. Mais parce que c'est beaucoup des petites parcelles très morcelées, donc c'est pas facile à exploiter, à couper, à vendre du bois. Mais dans l'idée du CRPF, c'était pour pouvoir exploiter, vendre, mobiliser un peu plus de bois, comme ils disent. Et nous, on a pris la balle au bon, on s'est dit, ben, nous, on veut bien le faire, mais pas pour exploiter, mais pour préserver. Mais comme c'était leur mission d'aider à la création d'une association, ils nous ont aidés, sans problème. Voilà, donc, et l'idée est venue comme ça.
Comment savoir si tous les arbres ne sont pas habités? Comment on les reconnaît?
Ah. En fait, ils sont tous habités.
Ouais, je pense qu'ils sont tous plus ou moins habités.
Donc, mais... si tu coupes un arbre, tu coupes un abri d'un animal?
Oui,
forcément, oui.
Il y a beaucoup d'arbres qui abritent des petits insectes qui ne vivent que dans le bois et qui sont nécessaires à l'équilibre forestier.
Et du coup, couper du bois mort, ok, mais du bois vivant, ça sert encore à un abri à un autre animal.
Oui.
Et même le bois mort aussi. Hein.
Le bois mort aussi,
même
oui.
Même plus le bois mort.
Mais oui.
Oui.
Parce que justement, les petits insectes, ils aiment bien grignoter le bois mort et tout ça.
Bah oui, je pense que c'est plus facile puisque quand le bois, il est mort, il est un peu pourri. Du coup, il n'est pas aussi dur que...
Sûrement.
Qu'un arbre vivant.
Oui.
Du coup, c'est plus facile pour aller chercher les petits bouts de bois.
C'est ça.
Il y a des chenilles, il y a des petits oiseaux, il y a beaucoup, beaucoup de...
Après, il y a plein de petits animaux qu'on ne voit pas, qui sont microscopiques et qui... Puis là, si on gratte, ils ne vont pas venir se montrer en disant « Coucou !»
Une araignée.
Là, il y a une araignée. Mais tu vois, on voit des trucs, par exemple, ça, c'est des trucs de champignons, c'est des moisissures. Mais c'est important aussi.
Il y a des
petits... Là, on ne le voit pas, mais je suis sûr que si on avait un microscope, qu'on peut regarder ce qu'il y a là-dedans, on verrait plein de bestioles. Tu vois, là, il y a une autre petite araignée, là.
La souche, ok, quand elle a été coupée, il y a un arbre qui peut pousser, mais ça peut faire ça combien de fois?
Ça fait des rejetons, ça fait une CP.
Oui.
Et la question, c'était, si on recoupe, est-ce que ça en refait? Est-ce que c'est éternel?
Éternel, je pense pas que ça soit éternel. Il y a un moment où ça s'arrête, mais ça peut le faire beaucoup de fois. Mais ça dépend des arbres. Il y a des arbres qui le font plus facilement que d'autres. Par exemple, les châtaigniers, ça le fait très facilement. Et ici, c'est pas un pays où il y a beaucoup de châtaigniers. Mais par exemple, dans le sud de la Haute-Vienne, ils ont beaucoup de châtaigniers. Et il y a des gens qui vivent de ça depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'ils coupent les châtaigniers. Ça repousse, il les recoupe, ça repousse, il les recoupe, ça repousse.
À partir toujours de la souche.
À partir de la souche.
Ok.
Merci Jean-Jacques, merci Pascaline et merci de protéger la forêt. Je vous propose une nouvelle balade avec les gens fantastiques. Une balade en forêt. C'est parti.
La nature est richesse, il faut tant de sagesse pour protéger.
après toutes ces rencontres, moi j'ai bien compris comment il fallait protéger la forêt. Mais est-ce que les adultes l'ont compris aussi?
Ça, c'est une bonne question.
Je vous propose d'aller voir un homme politique qui sait de quoi il parle.
C'est parti.
Cui-cui.
Bonjour, monsieur Chapal. Vous êtes le député adjoint de la Creuse. Adjoint de madame Autoutirier. J'aimerais que vous nous expliquiez votre projet de loi sur l'éco-Creuse.
Pourquoi créer ce projet de loi? C'est parce qu'on a constaté, en Creuse, mais plus globalement dans tout le Limousin, qu'il y avait de plus en plus de projets, et je parle bien de projets de coupe rase, de projets d'exploitation de la forêt. C'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, on avait les propriétaires qui, de temps en temps, faisaient une action dans leur bois. Alors parfois, oui, c'était des coupes rases, parfois c'était une gestion plus réaliste et plus raisonnée de coupes sélectives. Et puis d'un seul coup, là, après le Covid, il y a eu une explosion. On l'a tous constaté en voyant passer les camions, en regardant le paysage autour de nous. Il y a eu une explosion des coupes rases dans nos régions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il y a le marché international du bois. C'est-à-dire, le bois, c'est mondial. Tout le monde a besoin de bois. Le marché international du bois qui a été bouleversé parce que la Chine a décidé de protéger ses forêts. Pourquoi ils protègent leurs forêts, les Chinois? C'est parce qu'ils sont intelligents et ils se disent « on va la garder pour plus tard ». Et on va les servir ailleurs parce qu'on a besoin de bois. Et donc la Chine s'est mise à acheter du bois dans le monde entier, y compris en France. Parce qu'en France, ici, le bois valait pas très très cher. Et les gens ont été ravis d'un seul coup, les propriétaires, petits ou gros, ont été ravis de pouvoir vendre d'un seul coup du bois à un meilleur tarif. Et les prix ont doublé, triplé, ça on l'a tous vu. Donc, de constater que d'un seul coup, il y avait une déforestation en cours, faut utiliser ce mot-là, on a étudié la question et décidé de construire ce projet de loi pour le présenter à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le problème du bois jusqu'à présent, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des petits propriétaires, la forêt est très parcellisée, et souvent on dit qu'on garde ça pour sa retraite. Moi, j'ai des voisins qui m'ont toujours dit ça. Et donc, on finissait par vendre une coupe de bois parce qu'on en avait un peu besoin. Et puis la génération suivante, dans 40 ou 50 ans, ferait la même chose. Mais c'était des petits apports. C'était quelques milliers d'euros. Hein, donc, on gardait. Ça n'avait pas de valeur en soi. Tandis que, d'un seul coup, ça a de la valeur. Et alors, il y a un effet un peu plus compliqué qui se passe. C'est qu'une fois qu'on a coupé le bois, ta parcelle, elle ne vaut pas grand-chose, puisque c'est juste un bout de terrain à flanc de coteau, à flanc de colline. Enfin bon, ça ressemble à rien. Et donc, les scieries viennent et rachètent pour un prix...
D'accord.
Oui, ils en profitent pour racheter les parcelles et se constituer aussi un patrimoine, puisque ça ne vaut plus rien.
Et puis, les propriétaires n'ont pas le moyen de replanter derrière, parce que ça leur reprend tout le...
Alors, ça dépend ce qu'on... Ça, c'est plus compliqué. Ça dépend ce qu'on replante, parce qu'il y a des subventions à condition de faire de la monoculture. Ouais.
Ah d'accord. Il y a pas, parce que j'ai cherché, c'est un monde 20 hectares, c'est des subventions, enfin des incitations fiscales,
oui,
avec une gestion durable. Mais pour eux, durable, c'est que tu coupes et tu replantes, c'est durable.
C'est ça.
Ok.
Oui, si on replante, c'est que c'est durable. Ouais.
Ok.
Oui, c'est une vision assez restrictive. Et le problème, c'est qu'autrefois, enfin, l'histoire de la forêt limousine, elle est relativement récente. Hein. On sait tous, le territoire, au début du XXe siècle, il y avait deux fois moins de forêt qu'aujourd'hui, hein, à peu près. Et en fait, on s'est mis à planter de façon un petit peu industrielle dans les années 30 et surtout 40-50, du pin, enfin du sapin, alors essentiellement du Douglas, mais aussi du pectiné, du grandis dans certains coins. Et on s'est mis à planter ça parce que ça pousse plus vite qu'un feuillu, évidemment. Ici, on avait traditionnellement plutôt du hêtre et un peu de chêne. Beaucoup de hêtre, on le voit encore. Et l'avantage du Douglas, c'est qu'on peut le couper beaucoup plus tôt. Le hêtre, il faut attendre 80 ans pour le couper. Le sapin, on pouvait le couper à 60 ans.
C'est un homme, quoi.
Voilà, donc tu peux le voir, tu peux dire c'est mon fils qui coupera.
Ouais.
Tu vois, donc ça devient beaucoup plus intéressant. Puis on va accélérer le truc. Maintenant, on le coupe à 40 ans, le sapin. Il y a même plus le temps de grandir tout à fait. Et le problème de la monoculture, c'est, on le voit aussi pour les élevages, hein, c'est le même problème avec la grippe aviaire, c'est que quand on se met à concentrer une seule espèce au même endroit, bah forcément le jour où il y a un parasite qui arrive, bah, il va se régaler et il va tout détruire. Tandis que si on fait une forêt mixte, Hein, on va avoir des châtaigniers, même si les châtaigniers, il y a des problèmes aussi. On va mettre des hêtres, on va mettre encore, je connais des gens qui mettent des merisiers ou des choses comme ça. Voilà, bah, le parasite, il va trouver un truc à grignoter, puis après, bon, il ne va pas se développer tellement. Tandis que quand il va se précipiter sur 10 hectares de Douglas, bah, ça va être le bonheur. Et le pire, c'est les épicéas, puisque les épicéas, ça, on les coupe encore plus tôt, et eux, ils sont encore plus fragiles face à tous ces problèmes de maladies. Voilà. Donc, favoriser, comme c'est le cas avec les incitations, favoriser une monoculture, en fait, c'est contre-productif. Et c'est toujours pareil, c'est qu'on voit à très court terme, on a replanté des arbres, et puis à long terme, en fait, les arbres vont mourir, les épicéas, et aussi à l'effet du changement climatique, les arbres vont mourir, et puis on aura perdu, quoi.
Oui, face au changement climatique, il faut installer une résilience.
Voilà. Et la résilience, on le voit, c'est la même chose que dans le monde animal. Il faut favoriser le mélange et les échanges des espèces.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste ce projet de loi ?
Les plans simples de gestion.
Alors, les plans simples de gestion, c'est un joli mot, mais il y a simple dedans. Et en fait, on peut autoriser une coupe rase si on a déposé, en tant que propriétaire, un PSG, un plan simple de gestion. Voilà, on présente un truc, on dit, voilà, moi je suis très organisé, je fais un plan simple de gestion. Mais dans le plan simple de gestion, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire qu'on peut dire, je fais une coupe rase dans le plan simple de gestion, et puis après, je fais ce que je veux. Mais le fait d'avoir déposé le PSG, ça suffit à avoir l'autorisation pour faire ce type de travaux. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est favoriser ce que j'expliquais, c'est-à-dire ne pas favoriser la monoculture, comme c'est le cas aujourd'hui avec les incitations pour replanter, qui sont exclusivement tournées vers la monoculture, et favoriser plutôt une plantation diversifiée qui permet de protéger les arbres. Il y a un impact aussi, hein. Quand on a des arbres différents, on va avoir un vivant différent, tout un écosystème beaucoup plus riche qui se met en place, parce que il y a peut-être des oiseaux qui aiment bien les sapins, mais tous les oiseaux n'aiment pas les sapins, pour faire simple, ou les insectes. Donc si on met une grande variété d'espèces ou une certaine variété d'espèces en place sur un territoire, ben, on va avoir une richesse du vivant beaucoup plus intéressante.
Donc vous allez faire des incitations fiscales pour replanter avec des...
Alors voilà, c'est ouvrir les incitations fiscales, d'accord, ne pas les faire qu'elles soient limitées à la monoculture, et aussi... faire que les coupes rases soient limitées, qu'elles fassent objet d'un vrai dépôt de dossier, et qu'elles soient instruites quand ça va dépasser une certaine taille. Alors on est 2 hectares, 4 hectares, il y a des discussions autour de la taille minimum, en dessous de laquelle il n'y aurait pas besoin de déposer une demande pour faire les coupes rases.
Alors du coup, il en est où ce projet de loi ?
Donc c'est un projet de loi qui a été construit depuis 2 ans. La députée de la Creuse, Catherine Couturier, à la présidence de la commission de la forêt. Donc c'est elle qui a dirigé cette commission. Une commission, c'est un ensemble de députés. Ils sont une trentaine, je crois. Chaque parti, chaque tendance est représentée en fonction de sa représentation à l'Assemblée nationale. Catherine Couturier est appuyée par une rapporteure qui est du groupe présidentiel Renaissance. Et elles ont construit, avec cette commission, un projet de loi. Donc ça, c'est un travail qui a duré, je vous dis, pratiquement 2 ans. Une fois que le projet de loi a été défini, c'est-à-dire chaque article a été construit, a été validé par l'ensemble des différentes tendances qui composent cette commission, ensuite le projet de loi est inscrit au calendrier de l'Assemblée nationale pour être discuté en Assemblée et voté. Voilà. Je n'ai pas en tête le calendrier maintenant pour le vote. Je sais que c'est présenté. Ça va être, je crois que c'est avant la fin de l'année. Et comme ces commissions sont constituées par les différents groupes représentés à l'Assemblée nationale, ça veut dire que les groupes sont déjà d'accord avec la constitution de cette loi, avec chaque article. Donc en principe, ça pourrait bien se passer.
Merci beaucoup, Monsieur Sapal, pour ces explications. J'ai bien compris comment une loi peut empêcher les coupes rases en gérant les forêts de façon plus durable.
C'était très intéressant.
Moi, j'ai pas besoin d'une loi pour vous dire plantez des arbres, plantez des arbres, plantez des arbres.
Ne piquez pas les papillons, n'écrasez pas les hérissons, n'empoisonnez pas les oiseaux, ne souillez pas l'eau des ruisseaux. Plantez des arbres à pleine forêt, plantez des arbres de belles futaies. Plantez des arbres à pleine forêt. Plantez des arbres de belles futaies. Ne poussez pas les mécaniques, ne touchez pas aux fantastiques, ne forcez pas les champs de blé, ne tuez pas la fleur des pleine forêt, plantez des arbres, de belles futaies, plantez des arbres, à pleine forêt, plantez des arbres, de belles futaies. N'assombrissez pas le ciel bleu, ne cherchez pas l'or et le feu, n'irradiez pas le fond des mers, ne tordez pas le cri du fer. Plantez des arbres,
plantez des arbres
à pleine forêt,
à pleine forêt.
Plantez des arbres,
plantez des arbres
de belles futaies,
de belles futaies.
Plantez des arbres,
plantez
à pleine forêt,
à pleine forêt.
Plantez des arbres,
plantez des arbres
de belles futaies. Plantez des arbres,
plantez des arbres
à pleine forêt.
Comme ça,
on en fait une petite dernière.
Je vous propose d'écouter Soprano. Cours Forest.
Cours Amélia.
Cours Ilona.
Cours Amélia.
Cours Ilona.
Forest. Cours. Cours Forest. Forest. Cours.
Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur, mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de
de cette puissance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance, car je cours à contre-courant qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi.
On se retrouve bientôt.
Suivez-nous pour l'émission Super!